Bonjour. Né le 13 décembre 1588 à Rome, de l'union de Jean de Vivonne, ancien conseiller d'Henri III, marquis de Pizzani, seigneur de Saint-Coire, ambassadeur en Italie et en Espagne, et de Giulia Savelli, issue de la haute noblesse romaine, et qui comptait parmi ses ancêtres un pape et plusieurs cardinaux, Catherine de Vivonne fut élevée dans la culture de la conversation. Elle assista dès l'enfance aux rencontres de son père avec ses amis lettrés. Elle n'avait que 11 ans quand elle fut mariée à Charles d'Angennes, vidame du Mans, c'est-à-dire officier chargé d'exercer les pouvoirs temporels, militaires et de justice en lieu et place des seigneurs ecclésiastiques, sénéchal du Maine et capitaine de 100 gentilshommes à la maison du roi. Charles, dont la famille avait acquis le château de Rambouillet en 1384, devint marquis de la seigneurie de Rambouillet en 1612 et son épouse, marquise de Rambouillet. Leur contrat de mariage stipulait que tous les enfants qui naîtraient du dit mariage ajouteraient au nom et armes de leur maison celui de Vivonne et les armes de feu Jean de Vivonne, marquis de Pizzani, père de Catherine. La marquise de Rambouillet eut 7 enfants en 7 ans, 2 garçons et 5 filles. Julie, qui la secondera dans son salon, Claire Diane, qui fut religieuse à Pont-aux-Dames avant d'être nommée abbesse d'Hyères, Léon Pompée, marquis de Pizzani, tué à Norlingen en 1645, Louise Isabelle, qui fut abbesse de Saint-Étienne-les-Dames, Dame de Reims, Catherine Charlotte, qui succédera à sa sœur à la tête de l'abbaye d'Hyères, Louis d'Angennes, vidame du Mans, mort de la peste en 1631, Clarisse Angélique, première épouse de François Adhémar de Monteil, comte de Grignan, et enfin sa petite-fille Marie-Julie de Sainte-Maure, qui épousera le futur duc d'Uzès, Emmanuel II de Crussol, et deviendra duchesse d'Uzès. De santé précaire, ne pouvant ni visiter ni renoncer à ses amis et relations, et désapprouvant les mœurs de la cour, la marquise décida d'attirer le grand monde chez elle. Elle tint tout d'abord salon à l'hôtel de Rambouillet, premier du nom, situé rue Saint-Honoré à Paris. Quand le couple le quitta pour habiter l'hôtel de Pizzani, rue Saint-Thomas du Louvre, il fut racheté par Richelieu pour agrandir son palais cardinal et devenir le palais royal. Elle n'hésita pas à faire reconstruire l'hôtel de son père, Jean de Vivonne, à partir de plans dessinés par elle-même, afin qu'il propose des pièces plus adaptées aux réceptions. En particulier, une enfilade de salons communicants dans le style italien. Elle décorera entièrement l'ensemble, inspirant même Marie de Médicis pour l'aménagement du palais du Luxembourg. Elle y réunira pendant plusieurs décennies le cercle mondain le plus influent de Paris, dans l'atmosphère de gaieté qu'elle savait faire régner autour d'elle. Chacun lui reconnaissant de rares qualités de cœur, et bien que prématurément vieille, elle restera très belle jusqu'à un âge avancé. Elle s'intéressait aux arts, aux lettres, aimait l'histoire et parlait couramment l'italien et l'espagnol. Catherine de Vivonne, surnommée Artemis, l'incomparable Artemis, anagramme de Catherine composé par Malherbe, fut l'une des personnalités féminines les plus marquantes de son temps. Son salon, qu'elle tenait avec l'aide de sa fille Julie, fut l'un des plus brillants de son époque. Son salon fut l'un des rares à faire honneur aux femmes, contrairement aux autres massivement fréquentés par des hommes. Pour ce faire, Madame de Rambouillet avait enrégimenté un escadron de jeunes filles de la meilleure naissance qui agrémentaient les rencontres par leur esprit et leur charme. Parmi les habitués de l'hôtel de Rambouillet, on peut citer François de Malherbe, dont elle adopta la doctrine, la duchesse de Longueville, Honora de Bueil, marquis de Racan, Pierre Corneille, Angélique Paulet et la comtesse de Lafayette, Madame de Sévigné, Claude Favre de Vaugelas, fils de l'illustre président Favre, et de nombreux dramaturges, poètes et épistoliers français. Le salon de la marquise était l'un de ceux où l'on discutait, faisait des lectures, jouait la comédie, chantait et écoutait de la musique. On y jouait à des jeux de société, se livrait à des petites improvisations littéraires ou composait des rondeaux et des énigmes. Des fêtes exceptionnelles y étaient données. Enfin, on y critiquait Louis XIII et Richelieu. Ce salon a exercé une grande influence sur la langue française et sur la littérature du temps. Bien que Molière ait raillé les manières des familiers de ce milieu dans Les Précieuses Ridicules, ces précieuses ont néanmoins joué un rôle très important dans le renouvellement du vocabulaire français. Par la grâce d'Artémis, son salon fut un événement majeur dans notre histoire culturelle. Entre la courtoisie et les salons des Lumières, son œuvre de rénovation et d'annoblissement du langage exerça sur les mœurs une influence purificatrice. Elle illustre le rôle éminent des femmes dans la sublimation des conflits, autant par l'art de la conversation et le goût de l'analyse psychologique que par l'art de vivre à la française, composé de gaieté, d'ironie et de douceur. L'hôtel de Rambouillet devint l'appui mondain grâce auquel l'Académie diffusa auprès de l'aristocratie ce qui deviendrait l'idéal classique. La société de l'hôtel de Rambouillet écrit des vers. Elle dîne le midi, soupe le soir, invente des charades, fait des farces. Entre deux madrigaux, écrits sur le coin d'une table et lus ensuite en public, on écoute quelques airs chantés et accompagnés d'un luth. Elle s'adonne au plaisir, estimant que l'honnêteté n'interdit pas la satisfaction des instincts. Elle se garde de tout savoir affiché. Mais le temps passe et les opinions se divisent. Le mariage de Julie, plusieurs décès dans sa famille et la fronde qui éclate sonneront l'amorce du déclin de l'hôtel de Rambouillet. Son rayonnement était moindre et ce sont les précieuses qui annexèrent la légende d'un salon où hommes et femmes respiraient le même air de politesse. Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, mourut le 2 décembre 1665 dans son hôtel de la rue Saint-Thomas du Louvre. Elle fut inhumée dans la chapelle du couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques, couvent qui disparut à la Révolution française. Écoutons pour terminer cette épitaphe composée par l'incomparable Artémis elle-même. Ici gît Artémis, exempte des rigueurs, dont l'âpreté du sort l'a toujours poursuivie. Et si tu veux, passant, compter tous ses malheurs, tu n'auras qu'à compter les moments de sa vie. Au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique.